La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons de Van Gogh cette semaine dans la Compagnie des œuvres. Cet artiste dont les couleurs se sont faites de plus en plus éclatantes au fur et à mesure qu'il avançait dans son art, au point qu'elles donnent littéralement le sentiment de laver les yeux de ceux qui les regardent, mais de les laver de quoi ? Eh bien sans doute de la tristesse ou bien de la misère que Van Gogh ne supportait pas, lui qui a vécu auprès des mineurs et des paysans pauvres et qui leur a apporté son soutien dans une attitude de très grande compassion qui était peut-être aussi l'un des signes de sa profonde difficulté à supporter le monde. Nous avons raconté cela lundi dernier au cours de notre émission introductive et biographique. C'était avec Pascal Bonafou, auteur notamment du Découverte Gallimard consacré au peintre néerlandais. Et puis hier, avec Wouter van der Veen, le directeur scientifique de l'Institut Van Gogh, nous avons parlé du rapport du peintre à l'argent, plus complexe qu'il n'y paraît, mais également de certaines caractéristiques de sa peinture. Et puis enfin demain, c'est d'un peintre sans dieu et sans maître dont il sera question avec Yann Blanc, qui a publié un livre sur cette question de la religion et des influences picturales de Van Gogh aux éditions Citadel et Masneau. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, nous nous pencherons sur la soi-disant folie de Van Gogh, telle qu'en a parlé Antonin Artaud dans son texte « Le suicidé de la société ». Nous serons pour ce faire en compagnie d'Evelyne Grossman. Et puis en première partie, sur ce sujet-là et sur d'autres, nous sommes avec Stéphane Guégan, qui écrit aussi bien sur la littérature que sur la peinture, aussi bien sur Théophile Gautier que sur Manet, Gauguin, Picasso ou Van Gogh. Et il s'est intéressé justement à Van Gogh dans l'ouvrage qu'il a intitulé « Van Gogh en 15 questions ». Publié aux éditions Azan en 2019. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres.
Mais on sait aussi qu'à Arles, quand il a donné une toile de l'hôpital, un dessin, une toile de l'hôpital d'Arles, et puis autre chose encore au docteur qui le soignait, au docteur Rey, celui-là s'est empressé de s'en défaire en disant « alors je ne veux pas quand même de ces croûtes ici ». Je ne crois pas qu'il y ait, et puis on les a vendues pour des millions et des millions en Russie, où des gens d'Arles ont pu les voir dans des musées de Pétersbourg ou autre part. Mais je ne crois pas qu'il y ait dans le monde un peintre plus maudit que celui-là qui était ici, malade, réconcilié un peu avec la vie et la nature à cause des alpilles, mais suivi pas à pas par un gardien qui, lui, naturellement, se moquait perdument de la peinture et de ce monsieur Vincent aux cheveux rouges qui n'était pas toujours commode. Mais mettons-nous un peu à sa place, s'il y avait de quoi être commode avec des gens qui le comprenaient si mal.
Le témoignage de l'écrivaine et poétesse Marie Moron pour ouvrir cette troisième émission sur Van Gogh avec vous, Stéphane Guégan. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai qu'il faut se mettre un petit peu à la place de Van Gogh avant de le considérer comme pas commode, comme un fou. Il faut décentrer évidemment le regard, mais au-delà des mythes souvent poisseux qui tournent autour de Van Gogh, il y a quand même une folie à comprendre chez lui. C'est ainsi que vous en parlez, en tous les cas, dans l'introduction de votre petit livre sur les 15 questions que vous voulez poser au sujet de Van Gogh. C'est vrai qu'il a quand même été malade. On ne peut pas nier ce fait-là. Ça n'est pas seulement un mythe.
Je crois que les deux précédentes émissions ont fait justice du mythe du fou génial, du génie parce que fou, parce que malentendu, parce qu'empêché, parce qu'enfermé. Et on a fini par oublier qu'il y a une maladie. Une maladie sur laquelle, d'ailleurs, on continue à débattre. Une exposition du musée Van Gogh en 2016 s'est penchée à nouveau sur tous les témoignages médicaux et hésite encore à dire si cette maladie est d'origine psychotique ou épileptique. On penche plutôt pour la schizophrénie, mais comme l'a dit François-Bernard Michel dans un livre magnifique, La face humaine de Vincent Van Gogh en 1999. Cette schizophrénie, donc cette double personnalité, et on verra que c'est très important pour comprendre la carrière de Van Gogh, cette double personnalité s'aggrave d'une neurasthénie profonde. C'est-à-dire que non seulement il a des crises de démence, ce qu'il appelle sa fièvre cérébrale, mais par ailleurs, il est profondément mélancolique, profondément triste.
En fait, il est davantage mélancolique que fou, c'est ça que dit François-Bernard Michel, qui est donc docteur. On va voir en seconde partie que certains docteurs se sont penchés sur le cas de Van Gogh. Mais donc, il explique que finalement, selon lui, c'est davantage de la mélancolie que de la folie dont il faudrait parler au sujet du
peintre. Qu'il tranchait, j'en ai pas le souvenir précis. J'ai le souvenir d'un très beau livre, très bien écrit, et merveilleusement compréhensif à l'égard de Van Gogh et sa peinture. Ce qui est en revanche plus net dans les déclarations et le catalogue de 2016 de mes collègues du musée Van Gogh, c'est qu'on ne peut pas trancher. On ne peut pas trancher par rapport aux rapports médicaux très fournis de Saint-Rémy. On ne peut pas trancher à propos de ce que le docteur Félix Ray, a pu également dire de cette crise de démence, puisqu'il est le premier, au fond, à l'affronter. La vraie et la première grande crise, c'est celle de décembre 88, à la veille de Noël. Donc, moi, je serais prudent, et je dirais schizophrénie plus neurasthénie. Mais au fond, ce qui est plus important, c'est de dire et de rappeler peut-être que Van Gogh ne sait pas ce dont il souffre. Il ne comprend pas.
Mais il dit lui-même qu'il sent qu'il est souffrant de quelque chose.
Il dit lui-même qu'il sent... Qu'il se souvient très vaguement, dit-il à son frère, de ses moments de démence. Il parle de cette fièvre cérébrale à Saint-Rémy. Il dit aussi à Théo, je n'ai pas choisi la folie. Et alors la folie le met devant un devoir, il est protestant. Autant vous dire que je ne suis pas Yann Blanc dans toutes ses conclusions à propos d'un peintre déserté par Dieu. Ça a été rappelé hier, structuré par la foi protestante. La foi protestante lui donne une force face à la maladie. Il faut guérir. Au fond, le grand mot de la correspondance, c'est pas tant souffrir que guérir.
Alors comment guérit-on justement quand on est Van Gogh? Peut-on réellement d'ailleurs guérir? Et si oui, est-ce que ça n'est pas par l'art que ça passe? C'est justement la première question que vous posez dans votre livre. Je vois que vous avez fait vous-même une excellente transition, Stéphane Guégan. Alors est-ce que l'art guérit? Est-ce que l'art peut guérir jusqu'à Van Gogh?
Van Gogh le pense, en tout cas pense que c'est une des voies de la guérison. L'autre, c'est Dieu. Wouter van der Veen a rappelé, non, je crois que c'était Pascal Bonafou, a évoqué cette nature morte de 1885 où on voit la Bible ouverte et la joie de vivre de Zola comme une sorte d'allégorie d'un parcours qui serait le sien, ouvert sur le livre d'Isaïe. Donc la lumière en soi, c'est Dieu, et c'est cette lumière qu'il faut suivre entre les crises pour guérir. L'art est sans doute une des voies de la guérison. L'autre, c'est moins boire, c'est, si vous me permettez, moins baiser, puisqu'il a toutes sortes de considérations sur l'abstinence sexuelle. C'est restaurer son sang, restaurer sa santé physique. C'est le Sud. Il croit aux vertus fortifiantes d'Arles. Il pense trouver en Arles quelque chose qui ressemble aux conditions d'excellence de l'art japonais. Il pense que les Japonais sont des êtres sains. Dans une société en plus interconnectée, tout lui convient. Donc, il y a plusieurs recettes. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il a conscience que ce mal, non seulement le fait souffrir, mais l'empêche de travailler. Il faut produire, il faut être un peintre. Il n'est pas un peintre isolé. On l'attend.
Alors justement, comment apprend-on à peindre quand on est Van Gogh, quand on est autodidacte? On apprend en regardant un certain nombre de peintres qui l'ont précédé ou qui l'accompagnent, qui sont ses contemporains. Et votre livre, justement, à travers ces questions, reprend beaucoup d'exemples de ces peintres qui ont été importants pour lui. Est-ce qu'on peut apprendre à peindre, déjà pour commencer, quand on est Van Gogh?
Il le pense, puisqu'autour de lui, on le croit sans talent. Les premiers dessins, d'ailleurs, donnent presque une confirmation à la vie familiale. On l'a plutôt dirigé vers la vente des tableaux ou la vente des livres.
Alors qu'il le dessinait déjà, donc il avait déjà montré un certain nombre
de ses dessins. On ne conserve rien, mais il a dû dessiner dès l'adolescence. Contrairement à ce qui a été dit, je crois, par Pascal Bonafou, ses humanités sont assez bonnes. non seulement il a une maîtrise admirable des langues, l'anglais, le français très tôt, mais sa connaissance de la littérature est faramineuse. Moi, la première chose qui m'est frappée, quand j'ai lu la correspondance presque in extenso, c'est sa connaissance de la littérature ancienne et moderne. Et à travers cette connaissance, il a également accès à la peinture, à un certain discours sur la peinture, à un certain discours moderne d'ailleurs sur la peinture.
Donc vous aussi, vous dites que l'œuvre écrite est très importante.
Et elle vaut, enfin, tu vois, elle constitue une œuvre. Mmh. Elle constitue une œuvre, ça a été dit. Elle constitue une œuvre, c'est très bien écrit, c'est très bien pensé. Et d'ailleurs, je crois que vous avez cité Mirbeau. Mirbeau, après la lecture des lettres, est convaincu que ce peintre n'est pas fou et qu'au contraire, c'est un être très équilibré.
Cher Théo, si je ne me trompe pas, tu dois encore avoir les travaux des champs de Millet. Voudrais-tu avoir la bonté de me les prêter pour un peu de temps et de me les envoyer par la poste ? Tu dois savoir que je suis en train de griffonner de grands dessins d'après Millet et que j'ai fait les heures de la journée ainsi que le sommeur. Eh bien, peut-être si tu les voyais, n'en serais-tu pas trop mécontent. Maintenant, si tu voudrais m'envoyer les travaux des champs, peut-être pourrais-tu y ajouter encore d'autres feuilles par ou d'après Millet, Breton, Feuillin-Perrin, etc. N'en achète pas exprès, mais prête-moi ce que tu peux avoir.
Une lettre à son frère Théo du 20 août 1880, lue par Gabriel Dufay. Lettre dans laquelle Stéphane Guégan, on voit un peu comment Vincent Van Gogh approfondit son art, apprend en regardant d'autres artistes, et donc en l'occurrence Millet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un tout petit peu qui était Jean-François Millet et l'importance qu'il a eu pour Van Gogh?
D'une certaine manière, Van Gogh découvre Millet au moment où Millet meurt. Mais Millet, en mourant, est déjà un monstre sacré. Il a des collectionneurs jusqu'aux États-Unis. C'est l'homme de la ruralité. C'est celui qui a écrit une sorte d'épopée des champs. Une épopée, d'ailleurs, qui a des résonances bibliques. Des résonances non pas socialistes, mais socialisantes. Millet, c'est le peintre de la ruralité interconnectée. C'est le peintre où les hommes mettent finalement... En équation leur pensée et leur action, leur travail et leurs moyens de subsistance. C'est donc un artiste qui symbolise beaucoup de choses, non seulement l'excellence picturale, mais aussi une éthique, une religion et une religion sociale.
Donc l'homme intéresse beaucoup Van Gogh.
L'homme est l'œuvre, et alors en plus il lit tout ce qui peut s'écrire. C'est un lecteur boulimique. Il lit tout ce qui peut s'écrire sur Millet. Il achète des reproductions de différentes qualités. Il se crée, ce qui est d'ailleurs très traditionnel, un musée portatif avec lequel il passe de ville en ville, qui sont constitués de milliers de gravures, dont celle d'après l'œuvre de Millet, car Millet est très gravé, très reproduit. C'est véritablement un artiste qui a beaucoup profité de cet essor de la reproduction au XIXe siècle.
Donc il y a, on le comprend, une correspondance dans son rapport aux paysans, dans son rapport à ce qui n'est pas forcément le plus argenté, enfin, pour le dire de cette façon un peu compliquée. Mais du point de vue pictural, qu'est-ce qu'il retrouve chez Millet qui l'intéresse ?
Comme il le dit en citant, je crois... Huysmans, Vincent veut faire vrai. Faire vrai. Hein. Il a bien conscience que le réalisme est une esthétique complexe. Et faire vrai, c'est précisément ce que, quelques années avant lui, dès les années 1847-48, et le fait que Millet soit lié à la Révolution de 48 est important, c'est ce que Millet a fait.
Donc ce qui fait vrai, ce sont les sujets.
Millet est considéré à l'époque, avec Courbet, comme celui qui a inventé le réalisme pictural. En général, d'ailleurs, il satisfait une demande pour des images plus apaisées, pour des images plus harmonieuses, pour des images peut-être plus classiques que Courbet. Mais il passe pour un réaliste. Il passe pour celui qui a fait entrer le réalisme dans la peinture française. Ça, c'est très important, parce que Van Gogh ne cesse de s'interroger sur son réalisme.
Mais on aurait pu imaginer qu'il prenne d'autres modèles, Manet par exemple, Manet, ou Monet.
Alors Monet, c'est tout le propos aussi de mon livre, parce que moi je suis plutôt un spécialiste, j'ai horreur de ce terme-là, mais j'ai plutôt travaillé sur Manet que sur Van Gogh. Et ce qui m'a frappé en lisant la correspondance de de Van Gogh, c'est que Manet intervient très tôt, avant même qu'il ne voit les tableaux. Et d'ailleurs, quand Van Gogh arrive à Paris, Manet est déjà mort. Il est déjà mort, auréolé de celui qui a lui aussi réinventé le réalisme. Non, Manet l'intéresse plus que Monet. Ce qui l'intéresse dans la tradition réaliste et chez les impressionnistes, c'est les peintres chez qui la nouvelle vision s'accompagne d'une charge humaine, d'une profondeur psychologique qu'il ne trouve pas chez tous les paysagistes impressionnistes.
Alors, la modernité aussi, qui est importante pour Van Gogh, c'est chez Millet qu'il la trouve, et notamment dans ce tableau dont on a déjà parlé cette semaine, qui est l'Angélus. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement moderne, outre le sujet dont on vient de parler, dans ce tableau qui représente donc un couple de paysans qui prient au soleil couchant, ou levant d'ailleurs, au milieu de leur champ de blé? Est-ce que il y a aussi une manière de représenter qui est à l'avant-garde de la modernité et qui intéresse en cela Van Gogh?
Michael Fried parlerait d'absorption, hein, ces personnages qui sont absorbés dans la prière, presque qui s'oublient, si je puis dire, dans l'acte de dévotion. Ça le touche, bien sûr. Il y a chez Millet une capacité à dire l'intériorité, l'intensité des sentiments humains les plus communs. Pensez au premier pas de l'enfant, tableau qui chavire littéralement Van Gogh à Saint-Rémy, mais aussi, bien sûr, la foi. C'est cette alliance de la religion de la terre et de la religion du Christ. On a beaucoup dit qu'il avait pris ses distances avec la foi de son enfance. En revanche, la foi continue à le structurer, et surtout l'éthique, les valeurs chrétiennes, elles sont là, et Millet, pour ça, est un intercesseur.
Alors, du coup, on se demande un peu pourquoi vous faites intervenir Rubens, qui n'est pas exactement dans le même genre, dans le même ordre d'idées. C'est assez inattendu de faire, comme vous le faites, un parallèle entre la peinture de Van Gogh et Rubens. Alors, est-ce que c'est lui,
peut-être, qui le fait. Vous savez, je suis en toute modestie un adorateur de la peinture, donc je me plie à la découverte de Van Gogh. Il est à Anvers, et le grand maître, c'est Rubens. Et effectivement, il n'est pas très baroque dans ses choix, dans ses goûts. Mais il ne peut pas ne pas réagir à la peinture de Rubens. Et dans le chapitre que je consacre à cette rencontre, qui est une rencontre inaccomplie, on le voit bien, ça le met en difficulté. Mais il ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a là un peintre époustouflant.
Alors, il parle de simplicité, alors que quand même, voilà. Ça paraît pas simple, ça paraît plutôt baroque.
Ce que j'en dis, à vrai dire, à la suite des échanges qu'il a avec Théo, puisque Théo aussi s'étonne de ce goût pour Rubens, c'est qu'il va chercher dans les grands retables post-tridentins, il va chercher des figures marginales, des jeunes femmes en voie de rachat. Et ce qui l'intéresse, c'est justement à nouveau l'intensité, l'émotion, cette capacité de faire passer à travers la peinture l'émotion.
La Haye, avril 1882. C'est justement parce que j'ai une patte de dessinateur que je ne puis m'empêcher de dessiner. Je te demande à toi, ai-je douté, hésité, faibli, depuis le jour où je me suis mis au dessin? J'ai des raisons de croire que tu sais, toi, que j'ai lutté sans désemparer et que mon ardeur a augmenté progressivement, naturellement. À preuve, le croquis 6 juin, il a été fait au Guest, sous la Borine, dans une rue boueuse, au milieu du tohu-bohu et du charivari. Je te l'envoie pour te montrer combien mon carnet de croquis témoigne de mon dessein de saisir mes sujets sur le vif. Mais par exemple Ter Steg, devant une sablonnière, au Guest, où les terrassiers sont en train de placer une conduite d'eau ou une conduite de gaz. Je voudrais voir la grimace et le croquis qu'il ferait. Travailler sur les chantiers, dans les impasses et dans les rues, travailler à l'intérieur des maisons, dans les salles d'attente et même dans les cafés populaires, n'a rien d'une partie de plaisir, à moins qu'on ne soit artiste. Rechercher des sujets, fréquenter les ouvriers, se creuser la tête devant un modèle, dessiner sur place d'après nature, c'est vraiment une besogne ardue et parfois même un sale boulot. Voilà ce que je veux dire.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Son éthique de calviniste, c'est aussi, comme on l'entend dans cette lettre à son frère, datée d'avril 1882, c'est aussi d'aller sur place, d'aller sur le motif, un peu, on va pas dire comme Zola, hein, parce que on sait bien comme Zola faisait une sorte de reportage finalement, et comme il documentait, comme il faisait son enquête, c'est pas exactement la même chose quand même, mais il y a l'idée qu'il faut aller sur place, qu'on ne peint pas comme ça, seulement dans son atelier.
Oui, le réalisme impose le terrain, le réalisme impose la rencontre, le réalisme impose de partager. Ici, la souffrance, du moins la dureté, la pénibilité, dirions-nous aujourd'hui, du travail. Il l'a vu dans le borinage, et mon cher Gauthier a décrit ce qu'étaient les usines, les mines du borinage. On n'y rigolait pas. Et à La Haye, alors qu'il a fait le choix vraiment de la peinture, là. Hein, il s'est vraiment donné les moyens, il achète des livres, il apprend, il a son cousin mauve. Donc, et là, à La Haye, il découvre un autre monde, c'est l'usine, les usines de gaz. Il les a dessinées de manière très moderne, d'ailleurs, comme bientôt le fera son ami Signac en France. Et donc, il pense que cette peinture doit se nourrir de la rencontre. La peinture n'est pas, le réalisme n'est pas une image banale de la réalité, elle est le produit d'une rencontre.
Est-ce qu'on trouve dans sa correspondance des conversations qu'il aurait eues avec des paysans, des ouvriers qu'il aurait rencontrés ou des mineurs dans le borinage pour comprendre un petit peu ce que les gens pouvaient penser de ce personnage qui devait quand même étonner beaucoup, poser son chevalet comme ça dans des endroits où d'habitude les peintres ne vont pas.
Il en parle souvent à Théo, effectivement. Il dit qu'il y a plus malheureux qu'eux. Il dit qu'il faut aller consoler. Il a ces mots de pasteur. Hein, c'est un pasteur empêché, d'une certaine manière, empêché volontairement, mais un pasteur empêché. Et il découvre, lui qui vient du milieu de la bourgeoisie, même de la très bonne bourgeoisie, il découvre un autre monde. Et il est bouleversé. Donc il en parle à Théo, il en parlera également à propos des soldats, à propos des zouaves, à propos des petits métiers en Arles, également à Théo. C'est un artiste qui a été frappé par Les Misérables de Victor Hugo. C'est un artiste qui sait sur quelle misère s'est bâti le 19e siècle. Misère sociale.
Qui connaît le monde de la prostitution aussi.
Qui connaît le monde de la prostitution, mais qui a un rapport à la prostitution, je dirais, assez équivalent à celui de mon cher Lautrec, qui était vraiment l'un des grands amis également de Van Gogh, c'est-à-dire...
Qui a peint beaucoup, justement, de prostituées.
Ce sont des femmes qui se prostituent sous la nécessité sociale, mais elles apportent finalement... Un tel bonheur, un tel plaisir à ces hommes-là, qu'ils n'en parlent pas comme des êtres de détresse, sauf erreur, et je suis prêt à être contredit, je ne connais pas par cœur l'ensemble de la correspondance. En revanche, ils voient bien l'ambiguïté de leur position, et ils, d'ailleurs, ces images du Arles nocturne, sont des images, comme il le dit, cruelles et passionnées.
Alors pourquoi parlez-vous de Toulouse-Lautrec comme le corrupteur de Van Gogh? Comment faut-il entendre ce mot?
Parce que Lautrec boit, et qu'une des causes des crises de démence de Van Gogh, c'est l'alcoolisme, c'est l'absentisme. Quand il arrive à Arles, un peu poussé par Théo, qui n'en peut plus, c'est très difficile de vivre avec Vincent, et pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, c'est pas la seule. Théo l'envoie en Provence. Il dit à Émile Bernard qu'il a rencontré chez Cormon, qui est un ami également, qui a été un ami de Lautrec et de Gauguin. Eh bien, mon sang est vicié. J'ai trop fait la fête à Paris. Cette ville ne me convient pas. D'ailleurs, il le redira après Saint-Rémy, quand il quitte. On en parlera peut-être, l'asile, au début 90, il fait une tentative parisienne parce que il sent que ça commence à marcher. Aurier vient de parler de lui, il expose aux indépendants, on s'intéresse à Van Gogh. Eh bien, il reste très peu de temps à Paris parce que il le dit, cette ville ne me convient pas.
C'est une ville un peu brûlante pour lui.
C'est une ville brûlante, c'est la vie des vices, c'est la vie des extravagances, comme il le dit.
Et alors, il y a aussi peut-être une corruption de la peinture de Van Gogh par Lautrec, parce que on retrouve à cette époque un petit peu parisienne de Van Gogh des tableaux de lui qui peuvent faire penser à des tableaux de Lautrec.
Absolument. Et j'en ai montré un au Grand Palais il y a quelques mois. C'est son portrait. Le portrait de Van Gogh par Lautrec a des correspondances ailleurs. Et ce qui est frappant aussi, c'est que les Van Gogh, comme le dirait Wouter van der Veen, spéculent sur Lautrec immédiatement.
Donc ils achètent du Lautrec.
Ils achètent. D'ailleurs, ces tableaux, on les voit désormais au musée Van Gogh, parmi les œuvres de la collection de Vincent. Et régulièrement, quand il est à Arles, il parle de Lautrec, pas régulièrement, mais de temps en temps, il parle de Lautrec en disant que lui fait une peinture plus rugueuse à Théo, une peinture plus rurale.
Donc c'est par exemple Poudre de riz que les Van Gogh achètent à Lautrec, et c'est un tableau qui ressemble beaucoup au portrait d'Agostina Segatori que Van Gogh va faire.
Absolument, sa maîtresse d'origine italienne, qui la propriétaire du tambourin, lequel tambourin devient un espace d'exposition puisque les frères Van Gogh y exposent leur collection d'estampes japonaises. D'ailleurs, le tableau, le portrait de Lautrec montre deux choses intéressantes. D'abord, la beauté de Vincent, de profil, car cet homme est très beau. Les estampes et le verre d'absinthe, c'est une allégorie.
Ma chère sœur, puisque j'en suis tellement à te parler de moi, je vais essayer de voir un peu si je ne pourrais pas te mettre mon propre portrait par écrit. Je pose d'abord en fait que, selon moi, un portrait de soi peut fournir matière à plusieurs portraits de conceptions très différentes. Voici une conception du mien qui est le résultat d'un portrait que j'ai fait de moi dans la glace et qui est aux mains de Théo. Un visage gris-rose et des yeux verts, des cheveux couleur de cendre, un front ridé et autour de la bouche, raide et comme en bois, une barbe très rouge, un peu en pagaille et triste. Mais les lèvres sont pleines. Un sarrau bleu de toile grossière et une palette avec du jaune citron, du vermillon, du vert véronèse, du bleu de cobalt, enfin toutes les couleurs sur la palette, excepté l'orangé de la barbe, rien que des couleurs pures.
Cette lettre adressée cette fois à sa sœur en 1888, qui nous emmène, on a peu de temps pour cela, à la question des 37 autoportraits. Stéphane Guégan, qu'est-ce qu'il montre dans ses autoportraits? Est-ce que c'est sa mélancolie? Est-ce que c'est une forme de narcissisme? Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez qu'il a dit que la perle était la maladie de l'huître. Et que ces autoportraits, eh bien, ce sont des perles, des moments de révélation. Il le dit à propos de Rembrandt. Rembrandt s'est beaucoup peint. Chaque tableau est une révélation de lui-même. Donc il s'explore. Il s'explore, il se cherche, il cherche les traces de la maladie.
Il est chaque fois différent sur chaque autoportrait.
Il est chaque fois très différent. On le voit en bourgeois, on le voit en ouvrier, on le voit en viveur, on le voit en affamé de la vie, on le voit en mélancolique. Il se met en scène, comme Rembrandt s'est mis en scène. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'il y avait peut-être parfois un peu de narcissisme, mais au sens de la psychiatrie, c'est-à-dire d'une difficulté de surmoi et de grande solitude.
Il a besoin de se rassurer sur le fait qu'il existe.
Absolument, et notamment à la lettre qui vient d'être lue, on pourrait répondre par d'autres lettres qui datent de septembre, de l'automne 89, après les grandes crises de l'été, les très grandes crises de l'été, aussi importantes que celles de décembre 88. Et il dit à Théo, il parle de trois autoportraits et il dit que certains d'entre eux le montrent malade. C'est notamment celui qui vient d'être authentifié dans la collection du Musée national d'Oslo.
Car il y a un nouveau Van Gogh.
Il y a un nouveau Van Gogh définitivement acquis par les savants. Et puis, il y a des tableaux qui le montrent guéri. Il y a des tableaux qui le montrent, en tout cas sur la voie de la guérison, recouvrant, c'est un mot aussi qu'il utilise, la santé. Le mot santé est également un leitmotiv de la correspondance de Van Gogh. Donc ces autoportraits, il ne faut pas les prendre comme de purs exercices formels. Il ne faut pas les prendre non plus comme le produit d'un narcissisme mal contrôlé. Il faut les prendre véritablement comme le dialogue qu'il entretient avec lui-même, et pas simplement avec son moi profond, mais aussi avec son moi social, avec son moi esthétique. C'est un artiste qui existe.
Un peu comme une forme d'autobiographie.
Une autobiographie, mais adressée aux autres.
Merci beaucoup Stéphane Guégan, on va s'en tenir là, mais il y a encore plusieurs entrées à explorer dans votre livre, livre que je conseille donc à nos auditeurs. Il s'agit de Van Gogh en 15 questions, publié aux éditions Azan, tandis qu'à présent Evelyne Grossman va nous parler, elle se prépare déjà, du texte d'Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société.
Je pense pourtant plus que jamais que c'est au docteur Gachet d'Auvers-sur-Oise que Van Gogh a dû ce jour-là, le jour où il s'est suicidé à Auvers-sur-Oise, a dû, dis-je, de quitter la vie. Car Van Gogh était une de ces natures d'une lucidité supérieure qui leur permet, en toutes circonstances, de voir plus loin, infiniment et dangereusement plus loin que le réel immédiat et apparent des faits. Je veux dire de la conscience que la conscience a pour habitude d'en garder au fond de ses yeux comme épilés de boucher. Van Gogh se livrait sans désemparer à l'une de ces opérations d'alchimie sombre qui ont pris la nature pour objet et le corps humain pour marmite ou creuset. Et je sais que le docteur Gachet trouvait toujours que ça le fatiguait, ce qui n'était pas chez lui l'effet d'un souci médical simple, mais l'aveu d'une jalousie aussi consciente qu'inavouée.
Bonjour Evelyne Grossman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez aux éditions de Minuit un essai intitulé « La créativité de la crise », un sujet que vous traitez par le biais des écrivains, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Antonin Artaud, l'auteur de ce célèbre texte « Van Gogh, le suicidé de la société », dont on vient d'entendre ici un extrait lu par Alain Cuny, mais vous ne parlez pas particulièrement de ce texte dans cet essai, puisque vous parlez d'une conférence d'Artaud qui s'appelle « Le théâtre et la peste », une conférence qu'il avait donnée à la Sorbonne en 1933, date critique s'il en est pour l'histoire de l'Europe et du monde. Mais c'est finalement au lendemain justement de cette histoire du nazisme, que Artaud, à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1947, écrit ce texte sur Van Gogh. Il le fait à l'occasion d'une exposition qui se tient à ce moment-là à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la genèse justement de ce texte qui est devenu par la suite célèbre et qui a beaucoup orienté, je crois, la vision qu'on a de Van Gogh?
Oui, c'est à la suite de la lecture d'un article qui qualifiait Van Gogh de schizophrène dégénéré.
Un peu comme vient de le faire Stéphane Guégan, ou plutôt...
Très différemment. Non, c'est à la suite donc de cet article que Artaud, pris d'une sorte de fureur, parce qu'il se sent visé, bien sûr, écrit très vite ce texte, Van Gogh, le suicidé, la société. Il va voir l'exposition à l'Orangerie et très vite, il écrit ce texte qui commence par « Non, Van Gogh n'était pas fou ». Et ce texte, c'est une sorte d'autoportrait. On parlait d'autoportrait tout à l'heure, autoportrait à l'oblique, parlant de Van Gogh et parle de lui, naturellement. Puisque lui aussi a été traité de fou, de schizophrène, paranoïaque.
Alors peut-être qu'avant d'aller plus loin, justement, on peut entendre un petit peu ce qu'avait dit ce fameux docteur Baer qui traitait Van Gogh de déséquilibré.
Van Gogh était un déséquilibré aux excitations violentes à allure maniaque, avec déchaînements brutaux comme manie coléreuse, forme mixte de crêpes. Son hérédité était chargée par une spécificité probable de son père, mort d'un ictus apoplectique. Son frère aîné était mort-né, son frère cadet mort dément. Du côté maternel, il déclara porter lui-même des tares épileptiques. Dès son enfance, il attirait l'attention de ses proches par ses caprices, son entêtement, ses accès de colère violents et convulsifs. Des troubles névropathiques divers marquent sa puberté. Des migraines et des gastralgies qui apparaissent chez lui à cette période ne le quitteront plus désormais. Son affectivité se trouve désaxée après sa dernière mésaventure amoureuse. Ses tendances psychiques ou passionnelles subissent une exagération pathologique. Ses sentiments de compassion aux misères atteignent une abnégation morbide, délirante, lors de son séjour dans le borinage, où, prédicateur, il se livre aux excès mystiques et aux pratiques de l'ascétisme. Son instabilité, sa dromomanie, ont leur début aussi à cette époque précoce.
Extrait lu par le peintre Corneille. C'est donc ce texte qui a fait bondir Antonin Artaud et qui a provoqué sa réaction, Evelyne Brossman.
Oui, parce qu'il retrouvait dans ce diagnostic quelque chose du diagnostic qui lui avait été finalement infligé à lui-même, c'est-à-dire une espèce de maladie héréditaire. Artaud a été soigné longtemps pour une syphilis dont on n'est pas sûr qu'il ait jamais souffert. Or, on sait que les traitements qu'on lui a infligés à l'époque étaient d'une rare violence.
Les électrochocs, par exemple.
Ah, ça, c'est après.
Et pour autre chose.
Ça, c'est après les électrochocs. Mais quand il était beaucoup plus jeune, puisqu'il a passé finalement dans des maisons de santé, comme on disait à l'époque, une bonne partie de son temps, on le soignait pour une sorte de syphilis avec des traitements donc très 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 violents. Après, quand il a été interné. À la fin des années 30, il a eu, c'est vrai, ce traitement par électrochoc.
Mais pour sa condition psychique, là.
Oui, il a été interné d'office à son retour d'Irlande, où il était allé tout seul, à la rencontre, disait-il, des druides, pour trouver les secrets de leur culture. De même qu'avant, il était allé au Mexique, à la rencontre des Indiens mexicains, à la recherche de ce qu'il appelait la culture rouge. Donc, ça s'est mal passé en Irlande. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il a été donc... il délirait déjà un peu avant l'Irlande, à son retour du Mexique, précisément. Et donc, il a été interné d'office. Il a passé en tout 9 années de sa vie dans des asiles psychiatriques. Le dernier psychiatre qu'il ait rencontré, c'est le docteur Ferdière à Rodez. Et d'ailleurs, quand il parle du docteur Gachet de Van Gogh, on sent bien qu'il parle aussi du docteur Ferdière, celui qui s'est occupé de lui et dont Artaud dit qu'il avait voulu redresser sa poésie.
Ouais. Est-ce qu'on sait si il a, Antonin Artaud, une connaissance profonde de la peinture de Van Gogh avant d'aller à cette exposition de l'Orangerie qui déclenche un petit peu l'envie d'écrire ce texte?
Non, je ne crois pas. D'ailleurs, il n'écrit pas un texte sur un peintre seulement. Artaud, dans les années 20, a écrit, selon ses traditions littéraires bien connues, Diderot à Baudelaire, il a fait des comptes rendus de salon. Mais non, il n'a, à ma connaissance, jamais parlé de Van Gogh. Il ne connaissait pas l'œuvre de Van Gogh. Ce qui l'a intéressé, c'est que justement, Van Gogh était bien plus qu'un peintre. D'ailleurs, il dit Van Gogh était un formidable musicien. Mmh. Et Van Gogh était un écrivain. Voilà. Autrement dit, c'est cet ensemble qui n'entre dans aucune case, qui déborde partout, qui l'intéresse chez Van Gogh.
Un fou, Van Gogh, que celui qui a su un jour regarder une face humaine regarde le portrait de Van Gogh par lui-même. Je pense à celui avec un chapeau mou. Peinte par Van Gogh extra-lucide, cette figure de boucher roux qui nous inspecte et nous épie, qui nous scrute d'un œil torve aussi. Je ne connais pas un seul psychiatre qui saurait scruter un visage d'homme avec une force aussi écrasante et en disséquer comme au tranchoir l'irréfragable psychologie. L'œil de Van Gogh est d'un grand génie. mais à la façon dont je le vois me disséquer moi-même du fond de la toile où il a surgi. Ce n'est plus le génie d'un peintre que je sens en ce moment vivre en lui, mais celui d'un certain philosophe par moi jamais rencontré dans la vie. Non, Socrate n'avait pas cet œil. Seul, peut-être avant lui, le malheureux Nietzsche eut ce regard à déshabiller l'âme, à délivrer le corps de l'âme, à mettre à nu le corps de l'homme hors des subterfuges de l'esprit.
Van Gogh n'est pas fou, Evelyn Grossman dit dans ce texte Antonin Artaud, il est seulement extra-lucide. Et il y a dans ce texte une modélisation de l'artiste en extra-lucide en même temps qu'un homme ou une femme qui a un comportement qui n'est pas le comportement de tout le monde. Donc ce texte est aussi fondateur de cette image-là.
Oui, il reprend finalement une ancienne tradition ici, Artaud, c'est-à-dire cette espèce de conception romantique de la folie. Le fou génial, illuminé, extra-lucide. Il tient beaucoup à cette conception puisqu'il s'inclut finalement dans cette lignée. Mais ce qu'Artaud va ajouter, c'est qu'il a une espèce de théorie de l'aliénation qu'il construit à propos de Van Gogh, en regardant l'étoile de Van Gogh. Et pour lui, Van Gogh est un fou, peut-être. Mais qu'est-ce qu'un fou ? Mais c'est surtout un aliéné authentique, comme il dit.
Un aliéné de la société. Alors, aliéné par la société.
Alors, suicidé de la société. Mais un aliéné authentique au sens où ce n'est pas donné à tout le monde. Au sens où, comme il le dit... un aliéné est quelqu'un qui a préféré devenir fou plutôt que de forfaire à une certaine idée de l'honneur humain. Voilà, c'est ça, un aliéné. Mmh. Et il dit dans un autre texte, quelle garantie finalement les aliénés évidents ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants ?
C'est-à-dire quoi, ça ?
Eh bien, ça signifie qu'il est une sorte de... Alors, on pourrait dire un surhomme nietzschéen, mais en tout cas... Il est le représentant d'une autre forme d'humanité, avec Van Gogh, avec Nietzsche, avec toute une série de poètes suicidés, comme Nerval, comme Edgar Poe, dont il dit qu'il s'est suicidé, avec voilà, toute une confrérie de persécutés, finalement, de persécutés.
Par des médecins, en l'occurrence, qui ne sont pas authentiquement vivants, c'est ça ?
Qui ne sont pas authentiquement vivants, qui donnent la mort. Le médecin rend malade, voilà ce que dit Artaud, et seul l'artiste peut donner une autre forme, non pas de santé, parce que ce serait une espèce d'opposition simple maladie-santé, mais donner une force, une énergie vitale que la médecine essaie d'étouffer. Et voilà, on a essayé d'étouffer Van Gogh comme on a étouffé, comme Lautréamont a étouffé Ducasse, dit-il.
Non, alors, celui qui étouffe le plus, c'est donc le docteur Gachet, dont Artaud soutient qu'il détestait Van Gogh. Alors, il a lu la correspondance et il voit que, en tant que peintre, en tant que génie, Gachet le détestait.
Alors ça, je ne sais pas. C'est peut-être authentique. Artaud se fonde beaucoup sur la correspondance de Van Gogh avec son frère Théo, qu'il cite d'ailleurs dans son texte, hein, Van Gogh, le suicidé de la société. Il cite un extrait d'une lettre de Van Gogh à Théo qui lui explique à quel point c'est difficile de peindre. Il faut limer, enfin bon, ce fameux passage, hein, il faut trouver comment faire un trou dans la peinture. Et ça passionne Artaud, dans la mesure où c'est ça qu'il essaie de faire, Artaud. Artaud aussi est non pas peintre, mais dessinateur, hein, comme on sait. Et il a cette fraternité à distance avec Van Gogh, qui est l'idée qu'il faut crever l'œil de celui qui regarde. Ça, c'est fondamental pour Artaud. Il faut vraiment que celui qui regarde ait un véritable déchirement de la rétine. Donc, le regard de Van Gogh, c'est cela qui l'intéresse. Comment ce regard nous déchire?
Une autre fraternité peut-être entre l'un et l'autre, c'est l'idée de faire de l'art pour tout le monde. C'est-à-dire, pour Artaud, d'écrire pour les analphabètes. Mmh. Je crois que c'est lui qui disait ça. Et pour Van Gogh, de peindre pour les simples d'esprit, disait-il. Donc il y a quelque chose comme ça qui les rapproche aussi, Evelyne Grossman.
C'est comme ça qu'Artaud le voit, en tout cas, oui. Je ne sais pas si c'est vrai exactement pour Van Gogh, mais il insiste beaucoup sur une grande simplicité de Van Gogh, qui peint avec des moyens très simples, dit-il. Et il insiste beaucoup sur un certain nombre, d'une part d'autoportraits, mais aussi de tableaux où l'on voit une chaise en paille, où l'on voit, voilà. Et pour lui, c'est précisément la force, l'énergie de Van Gogh qui traverse cette simplicité apparente, qui n'est pas donnée à tout le monde.
Me considérer moi comme tout à fait sain, il ne faut pas le faire. Je ne te demande donc pas de dire de moi que je n'ai rien, ou n'aurai rien. Où puis-je aller pire que là où j'ai déjà été à deux reprises, au cabanon? Les avantages que j'ai ici sont que ils sont tous malades ici, et alors au moins je ne me sens pas seul. Il m'a semblé voir dans ta bonne lettre tant d'angoisse fraternelle contenue qu'il me semble de mon devoir de rompre le silence. Je t'écris en pleine possession de ma présence d'esprit, et non pas comme un fou, mais en frère que tu connais. Voici la vérité. Un certain nombre de gens d'ici ont adressé au maire une adresse, il y avait plus de 80 signatures, me désignant comme un homme pas digne de vivre en liberté, ou quelque chose comme ça. Le commissaire de police a alors donné l'ordre de m'interner de nouveau. Après ton mariage, nous pourrons nous occuper de mettre tout cela au clair. Ici, sauf la liberté, sauf bien des choses que je désirerais autrement, je ne suis pas trop mal.
Une lecture par Jean-Gabriel Langman d'une nouvelle lettre à son frère Théo. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Evelyne Grossman, une sorte de repos de Van Gogh à l'asile? C'est un peu ce qu'on entend quand même dans cette lettre, parce qu'il peut se réfugier tranquillement dans sa peinture. Évidemment, les médecins n'ont pas l'air si durs que ça avec lui. Ça s'éloigne un petit peu peut-être de la vision que Artaud avait envie d'avoir de Van Gogh.
Il a la vision d'un Van Gogh halluciné, d'un Van Gogh, comme il dit, un boucher roux. L'image de quelqu'un de très violent, mais aussi, il est vrai, l'idée de quelqu'un d'apaisé. Pour lui, Van Gogh est une figure absolument en contraste, de même que lui, Antonin Artaud, qui est capable d'être d'une grande douceur et puis de vociférer. Donc c'est à la fois... Il voit en Van Gogh un être quasi enfantin aussi, d'une grande douceur, paisible sans doute quand il peint dans les champs. Et puis aussi quelqu'un animé d'une énergie destructrice qui lui permet de créer.
Parce que là.
La création passe par la destruction ou inversement. Pour Artaud comme pour Van Gogh, sans doute. En tout cas, c'est comme ça qu'il le voit.
Je me permets de vous faire réintervenir.
Une double personnalité, vous l'avez dit, la schizophrénie. Donc, il ne peint qu'entre les crises, bien sûr. Il ne peint pas en pleine démence. Il peint en pleine possession de ses moyens. C'est un immense artiste qui a, comme vous l'avez rappelé, vu les maîtres. Et à partir d'Arles, il est véritablement en possession d'un outil, qui est la peinture. Et il choisit Saint-Rémy.
Mais sur cette idée que... Il avait peut-être trouvé une forme d'apaisement. Voilà, exactement. Il avait trouvé une forme d'apaisement.
Qui est un ancien couvent. Il choisit Saint-Rémy, alors qu'il aurait très bien pu simplement quitter Arles et retourner à Paris. Non, il choisit Saint-Rémy et il découvre qu'il y a plus fou que lui, plus malheureux que lui. Lui retrouve sa lucidité entre les crises, peint Et se fait raconter, en revanche, ses crises de démence, qu'il ne se souvient pas. Quand il mange de la terre, quand il mange sa propre peinture, c'est les médecins qui le lui rapportent. Et s'il choisit ensuite de repartir, c'est à nouveau parce qu'il a fait son temps. Mmh. À Saint-Rémy.
Alors il y a un tableau, Evelyne Grossman, qui retient en particulier, je crois, l'attention d'Artaud, c'est le champ de blé avec ses corbeaux. Pourquoi ce tableau-là en particulier?
Parce qu'il le relie à l'époque au suicide de Van Gogh.
Parce que on a longtemps pensé que c'était le dernier tableau.
Oui. Et donc pour lui, ce tableau est lourd de tout cet avenir morbide, mortifère. Mais pas seulement, parce que ce qu'il voit dans ce tableau, c'est aussi la force d'une écriture. Et encore une fois...
D'une écriture.
Une écriture, oui, parce qu'il voit, toutes sortes de traits d'écriture, de i, de virgules. Il insiste beaucoup sur les virgules chez Van Gogh.
Donc des virgules dans le ciel, c'est ça?
C'est très bien vu d'ailleurs.
Oui, dans le ciel et ailleurs, de façon générale, et moi je m'étais amusée à penser que sans doute c'était le nom même de Van Gogh qu'il voyait écrit dans ces virgules, dans la mesure où il essaie de décrypter ses tableaux comme il décrypterait aussi un texte, c'est-à-dire qu'il le déchiquette littéralement, il le fait exploser en ses composants. Et ce qui le frappe dans ce tableau, c'est en effet ces corbeaux annonciateurs de désastre, mais aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une, sans doute, comme vous disiez tout à l'heure, quelque chose d'une fécondité dans ce champ.
Et en même temps, quelque chose de la décomposition, peut-être du corps humain, parce que ce soit Artaud comme Van Gogh, sont des grands artistes du rapport au corps humain. En tout cas, Artaud le voit comme ça, il s'identifie à Van Gogh aussi pour cette raison.
Oui. Et il oppose Van Gogh à Léonard de Vinci, qui pour lui était précisément du côté du scalpel des médecins, du côté de l'anatomie, de celui qui tuait ses modèles, alors que Van Gogh, lui, est du côté de la vie. Comme lui, Antonin Artaud, il y a cette énergie et cette beauté en même temps du paysage qu'il reconnaît dans le tableau des corbeaux et... au champ de blé. Bien sûr que c'est un corps dont toute sa sensualité, et ça, Artaud le décèle dans une grande proximité à lui-même. Mmh. C'est-à-dire que c'est la d'une part, la force de destruction, mais aussi la sensualité de ses corps alangus dans les champs. Il y a quelque chose là de reposant, sans doute, aussi.
Ça nous donne envie aussi de lire Artaud. Peut-être qu'un jour, on vous invitera pour parler plus spécifiquement d'Artaud. Un mot sur lui, c'est difficile de le lire. Vous qui avez édité ses œuvres en quarto Gallimard, vous y avez consacré un certain nombre d'années de votre vie.
Ce texte, Van Gogh, le suicidé de la société, est un des derniers textes d'Artaud, puisqu'il paraît en 47 et Artaud meurt en 48. Et c'est un texte absolument lumineux et limpide. Très, très, très simple à lire, en même temps que très complexe, comme un tableau de Van Gogh. Non, Artaud n'est pas difficile à lire. Il faut simplement s'abandonner à la lecture d'Artaud et se laisser atteindre par cette lecture.
Et donc, malgré ce mythe que engendre le texte d'Artaud, vous le conseillez évidemment aussi pour comprendre d'une manière un petit peu détournée la peinture de Van Gogh. C'est en tous les cas ce que l'on comprend à vous écouter, Evelyne Grossman. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez publié récemment cet essai « La créativité de la crise chez Minuit » où il est question d'Artaud mais d'une autre manière. Et puis, on peut également retrouver la préface que vous avez donné au texte Van Gogh, le suicidé de la société d'Artaud, dans cette collection qui s'appelle L'Imaginaire et qu'on trouve chez Gallimard. Tout de suite, la chronique.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique proposée aujourd'hui par vous, Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine L'Œil. Bonjour Fabien.
Bonjour Mathieu.
Pour vous aussi c'est la rentrée.
Eh oui, la rentrée des classes, la rentrée littéraire, mais aussi, et c'est tant mieux, la rentrée des expositions. Rappelons qu'au début de l'été, les musées eux-mêmes formulaient quelques réserves sur leur programmation à venir. Y aurait-il ou non des expositions? La question était posée. Alors bonne nouvelle, il y aura bien des expositions cet automne. Dans le magazine d'Art L'Œil, nous avons même sélectionné ce mois-ci une cinquantaine de coups de cœur à venir partout en France. Pourtant, les choses n'ont pas été simples. Plusieurs accrochages annoncés en septembre ou en octobre ont été reportés, parfois plus rarement, mais parfois annulés. Ainsi, ne verra-t-on pas le peintre Botticelli au musée Jacques Marandré en septembre. Quant à l'événement annoncé de l'automne, l'exposition de la collection Morozov à la Fondation Vuitton, il faudra patienter jusqu'au 24 février pour la découvrir. Fort heureusement, dans un jeu de domino, nombre d'expositions qui n'ont pas pu avoir lieu en raison du confinement ont été reprogrammées cet automne. C'est le cas de Giorgio De Chirico, le peintre métaphysique au musée de l'Orangerie à Paris, qui, après avoir été annoncé le 1er avril dernier, puis reporté avant d'être déprogrammé, mais ouvrira finalement ses portes le 16 septembre.
Et tout cela nous rappelle que si les expositions se sont multipliées ces 20 dernières années, elles restent d'une économie fragile.
Et oui, dans le magazine L'Œil, notre journaliste Isabelle Manca enquête justement sur cette économie. Car si une exposition demande au musée beaucoup de préparation, Stéphane Guégan le sait, en moyenne 3 ans, elle représente aussi un investissement financier important. Paris Musée communique ainsi sur le chiffre de 8 millions d'euros en 2020 pour l'ensemble de la programmation de ses sites, c'est-à-dire le Petit Palais, le Musée d'art moderne de la ville de Paris, Galliera, etc. Le Louvre, lui, annonce un budget global de 3,5 millions d'euros par an hors mécénat. Bien sûr, toutes les expositions n'ont pas le même coût. Âme sauvage, l'exposition sur le symbolisme dans les Pays-Bas, avait coûté en 2018 500 000 euros au musée d'Orsay. C'est 5 fois moins que l'exposition Picasso bleu et rose qui a suivi un an plus tard et qui a bloqué les compteurs avec un budget de 2,5 millions d'euros. Cette disparité entre les petites et les grandes expositions existe aussi entre les musées, et notamment entre les institutions parisiennes et les autres, c'est-à-dire les musées des Beaux-Arts en province. Isabelle Manca nous apprend ainsi que l'enveloppe allouée au musée de Strasbourg représente 1,3 million d'euros, soit le coût d'une belle exposition parisienne, mais cette fois à répartir entre les 10 institutions de Strasbourg.
Et oui, alors comment le budget d'une exposition est-il réparti ?
Alors, il faut déjà savoir qu'un projet d'ampleur peut faire travailler jusqu'à 25 personnes, qui sont des commissaires scientifiques, des régisseurs, des scénographes, etc. Le budget d'une exposition comprend ainsi plusieurs postes, la scénographie, le transport des œuvres, les primes d'assurance, le salaire du commissaire s'il est indépendant, etc., etc. Rien que pour le catalogue, il faut compter entre 60 000 et 75 000 euros pour réaliser un beau livre illustré de 200 pages. Le coût de la scénographie, lui, est variable et peut représenter jusqu'à un quart tout de même du budget de l'événement, en fonction des supports de médiation numérique et bien sûr de la notoriété du scénographe.
Sans parler du transport des œuvres.
Eh oui, pour vous donner une idée, les caisses de transport qui sont réalisées sur mesure peuvent valoir plusieurs milliers d'euros, parfois jusqu'à 5-6 000 euros pour les plus sophistiqués. Alors, ajoutez à cela le prix du billet d'avion, parfois cargo quand les œuvres sont monumentales, le prix du billet aller-retour des convoyeurs chargés d'accompagner l'œuvre clou à clou, comme on dit, vous comprenez pourquoi 50 à 60% du budget d'une exposition moyenne passe dans le transport. Mais la crise économique actuelle pourrait bien faire évoluer les pratiques. Les musées nous disent vouloir continuer à programmer de belles expositions, c'est tant mieux, mais des expositions moins coûteuses, et ça c'est l'autre bonne nouvelle, peut-être plus écologique.
De la sobriété donc à venir, on l'espère. Merci beaucoup Fabien Simode. La compagnie des œuvres, c'est Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Romain Billet et Jacques Hubert. Et puis demain, avec l'historien de l'art Yann Blanc, nous parlerons peinture et religion. Il nous dira pourquoi Van Gogh n'avait ni Dieu ni maître.